Quand on parle des druides, on pense immédiatement à des personnages mystérieux perchés dans les branches d'un chêne millénaire pour couper du gui pendant une nuit de pleine lune. On pense aussi à des opérations magiques accompagnées de sacrifices humains près d'un dolmen sacré. Alors, qui étaient vraiment les druides? Quelle était leur place et leur rôle dans la société gauloise? Comment mener l'enquête avec aussi peu de pièces à conviction, mis à part les albums d'Astérix? Pour nous en parler, Jacques Pradel, vous avez invité Jean-Louis Bruno, qui est archéologue, chercheur au CNRS et qui publie aux éditions du Seuil un livre intitulé Les druides, des philosophes chez les barbares.
Merci Julix, bravo.
Je vous en prie.
On va dire tout de suite que cette émission n'est pas faite pour détruire le succès d'une bande dessinée qui mérite, grâce à l'imagination de leurs auteurs et au dessin, de continuer à faire rêver tous ceux qui se plongent dedans, y compris des adultes. Hein. D'ailleurs, bonjour Jean-Louis Bruno.
Bonjour.
Donc c'est pas du tout ça votre
non,
propos.
Non.
Par contre, c'est bien quand même. Moi, j'aime bien rencontrer quelqu'un comme vous, c'est-à-dire vous êtes archéologue, vous êtes scientifique, vous êtes ouvert, vous aimez l'aventure, vous faites du terrain. Du laboratoire, etc. Les druides vous ont intéressé, puisque vous leur consacrez quand même tout un livre qui vient de paraître effectivement aux éditions du Seuil. Derrière le sourire, parce qu'on y reviendra, par exemple, Obélix avec son menhir sur le dos, même si Goscinny avait été sur place à l'époque, il n'aurait pas pu croquer cette scène.
Ah non. On
est d'accord.
Effectivement, non. Les menhirs, les dolmens sont des vestiges qui sont de beaucoup antérieurs à la période des druides, donc de quasiment 2000 ans. Donc c'est totalement anachronique. Mais bon, c'est vrai que ça ajoute au plaisir de la bande dessinée.
D'accord. Mais alors, derrière le sourire, justement, il y a aussi, et il suffit d'aller sur Internet pour ça, ou de lire certaines publications, un vrai enjeu idéologique. C'est-à-dire que derrière les druides, il y a les Celtes, et derrière les Celtes, ben, il peut y avoir les Ariens, par exemple.
Bien sûr, donc c'est ce qui a fait toute la difficulté pour moi d'écrire ce livre, de m'attaquer à une idéologie qui est très forte, qui est très prégnante, et qui effectivement a des aboutissements quasiment racistes.
Ce qui ne veut pas dire que les gens qui s'intéressent à ça intellectuellement soient tous des racistes et des fascistes, mais je veux dire, il y a un mode d'emploi quand même qui existe aussi. On s'est basé sur ce mythe. Pour en tirer des conclusions politiques et qui ont des
voilà,
sur des rames.
C'est-à-dire, dès qu'on s'intéresse aux druides, on est pris en quelque sorte dans un piège,
ouais.
Qui est un piège idéologique et aussi mythologique, enfin qui se réfère à une mythologie qui est très très vieille, et qui remonte même à l'Antiquité, et qui a été alimentée pendant toute l'histoire de France.
Ouais.
Et donc, on n'a pas un regard objectif sur cette question, et il faut donc se dépouiller de ce mythe, et c'est un travail en soi, donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans la première partie de mon livre.
Je dirais pas que c'est un travail de roman, mais enfin, c'est un gros travail. Hein.
C'est un gros travail, mais qui est nécessaire pour que, effectivement, une fois qu'on a un petit peu détruit ce mythe, parce que, effectivement, ce n'est que du mythe, ce n'est que des inventions depuis l'époque de Cicéron.
On va en parler beaucoup. Hein,
Et ça s'est accumulé.
Ouais.
Et ensuite, on peut effectivement.
18e siècle, 19e siècle, etc.
Voilà, et après, on peut voir les choses en face, les réalités, à la fois textuelles et archéologiques.
Ouais.
Et on débouche sur des résultats qui sont cette fois-ci tout à fait étonnants.
Alors voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'enquête, parce que vous employez le mot, hein, vous-même dans la préface de votre livre, quoi. C'est une vraie enquête policière.
Oui,
quoi.
Parce que les archéologues finalement ont cette habitude de faire des enquêtes qui sont des enquêtes de terrain, comme vous le disiez tout à l'heure, et on a des méthodes de travail qui sont un petit peu calquées sur les méthodes policières. Ne serait-ce que bon, je le pratique beaucoup, ou tout au moins j'ai des collègues qui le font avec l'étude des ossements humains, où là on a vraiment de la médecine légale appliquée aux ossements des Gaulois.
Voilà, absolument. Vous vous servez de photographies aériennes, on en parlera
dans
cette émission, pour savoir comment on fait. Et puis aussi, alors il y a autre chose, c'est que, comme dans tout bon roman policier, on en parlait hier, on a fait une émission sur Agatha Christie, mais il y a aussi la réflexion. C'est-à-dire l'enquêteur qui s'arrête, qui pose ses outils et qui dit, bon, alors, qui a fait le coup? Et là, il faut aller chercher, peut-être, analyser des textes. Alors, ça porte un nom un peu barbare, mais vous allez nous dire tout de suite, c'est la philologie.
Oui,
et en vous lisant, j'ai découvert que c'était une discipline scientifique très, très importante.
Voilà, et là encore, c'est une méthode qui est assez proche de la méthode policière, c'est-à-dire qu'on fait une enquête sur des textes, parce qu'il faut savoir que les auteurs antiques, ou même les auteurs médiévaux, par exemple, travaillent un petit peu comme nos contemporains, comme nous même avec Internet, c'est-à-dire qu'on se copie les uns les autres.
Ouais.
Et déjà dans l'Antiquité, l'exercice était très courant, tout le monde se recopiait, et le but de la philologie, c'est savoir en quelque sorte qui a utilisé quel auteur ancien, et quels sont les auteurs qui ont vraiment observé des faits réels, et donc de dater ces faits.
Voilà. Et ça, c'est effectivement primordial.
Ah, ça, c'est primordial, donc il faut étudier les textes.
Mm-hmm.
Et bon, en quelque sorte, la particularité de mon approche, de mon travail, ça a été d'essayer essayer d'utiliser l'archéologie pour dater ces différentes étapes de copies, en quelque sorte.
C'est ça, et puis pour être sûr que si dans un texte on décrit une scène qui met justement en scène, au sens propre du terme, des druides, une cérémonie, un sacrifice, ou d'autres fonctions, puisqu'on va découvrir que c'est des gens qui avaient des fonctions auxquelles on ne pense pas comme ça, a priori, eh ben ça, il faut à ce moment-là savoir si le texte est bon ou si c'était recopié d'un vieux texte grec. Moi, ça m'a d'ailleurs très étonné que les premiers... Parce que c'est de l'analyse comparative de témoignages, en fait, la philologie.
Tout à fait, hein. Oui.
Alors, premier étonnement, moi je vous fais faire part de mes étonnements, vous dites, ben, les gens finalement qui ont vraiment rencontré des druides, c'est les Grecs.
Absolument.
Et on les associe pas comme ça, quoi, a priori.
Voilà, et donc les Romains, et le plus célèbre d'entre eux, César, n'a pas rencontré des druides qui se présentaient en tant que tel. Mm-hmm. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Ouais. Mais vraiment, ce sont les Grecs, à une époque assez haute, aux environs du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ouais. Qui ont vraiment rencontré les druides et les ont décrits, bien observés.
Alors, je vais prendre les choses par la fin, hein, juste pour donner quelques pistes à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui ressort de votre enquête? Il ressort de votre enquête que d'abord les druides, vous les appelez d'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre, des philosophes chez les barbares. Donc des philosophes, c'est pas forcément quelqu'un qui touille dans une potion magique toute la journée. Des prêtres quand même, on sera amené à parler de la religion de l'époque et de la religion des Gaulois. Et puis des gens qui certainement avaient un rôle proche des gens de pouvoir, mais là encore une fois, qu'est-ce que c'était les gens de pouvoir à l'époque de ces tribus qu'on nous présente comme barbares, avec des cheveux longs qui hurlent toute la journée tout nus en attaquant les Romains. Et puis c'est des gens aussi, d'après ce que j'ai compris dans votre livre, qui certainement avaient un rôle très important sur l'éducation des enfants.
Bien sûr.
Hein, l'aboutissement de votre enquête.
Tout à fait. Hein.
Alors, prouvez-le.
J'ai du travail.
Non, alors peut-être qu'on peut déjà essayer de se débarrasser de quelques idées fausses. Ou quelques idées reçues en tout cas, ou quelques amalgames. Faites-moi la différence entre les Celtes et les Gaulois, parce que en fait, c'est compliqué. Et il ne faut pas mélanger.
Non, tout ça est assez complexe. Alors ça remonte effectivement encore une fois à l'histoire ancienne, parce que ces appellations, c'est pas nous qui les avons inventées. Donc ce sont des appellations celtes qui ont été données par les Grecs à des individus qui eux-mêmes devaient s'appeler Celtes. C'est-à-dire que les Grecs, certainement de la région de Marseille, les Phocéens, ont rencontré des populations gauloises près de Marseille, des gens qui s'appelaient Celtes. D'accord. Alors le problème est de savoir s'il s'agissait simplement d'une petite tribu qui leur ont dit « nous, on est des Celtes ». Et ensuite, les Grecs ont extrapolé et un petit peu résumé en disant « tout le monde,
ils ont mis l'étiquette
au-delà de Marseille,
tous ceux qui connaissaient pas, c'était des Celtes.
Au nord de Marseille, tout le monde est Celte ». Et puis d'un autre côté, à partir du 4e siècle à peu près avant Jésus-Christ, peut-être même du 5e siècle, de leur côté, les Romains ont eu connaissance de barbares, dans un sens très résumé.
Mais vous le direz, parce que barbare, vous dites, ça ne veut pas dire...
Arrivaient donc en Italie du Nord, qui commençaient à envahir l'Italie du Nord, et ces gens-là se faisaient appelé Galie. Ouais. Et donc les Romains, eux, de leur côté, disaient, mais ce sont des Galies, puisqu'ils s'appellent Galie. Donc on a ces deux
Galie, Gaulois, noms bien sûr.
Qui se rencontrent. Alors pour résumer, parce qu'il ne faut pas non plus perdre les gens, on réserve plutôt l'appellation de Gaulois aux habitants de la Gaule, en sachant que la Gaule, ça n'est pas la France, c'est beaucoup plus large. Ça va jusqu'en Cisalpine, jusqu'à Bologne. Jusqu'au Rhin, donc Belgique, Hollande, une partie de l'Allemagne, et ça comprend la Suisse, donc c'est ça la Gaule. Ouais. Au-delà du Rhin, on appelle Celte, et à l'époque du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, les Grecs et les Romains les appelaient les Germains. Donc Germains et Celtes au sens large, c'est un petit peu pareil. Donc vous voyez, c'est assez complexe parce qu'ensuite... Effectivement, les idéologies un petit peu nationalistes ont voulu voir dans les Celtes une sorte de population qui s'étendrait sur toute l'Europe et qui serait homogène. Et effectivement, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Les Gaulois de cette Gaule élargie sont implantés depuis très anciennement en Gaule. Et quant aux Celtes de l'au-delà du Rhin, comme le disent les Latins, ce sont des Germains, c'est-à-dire des cousins.
Cousin Germain.
Cousin Germain, voilà. C'est le nom.
Non, mais c'est bien de dire ça. Alors, ça veut dire, je continue, votre interrogatoire, Jean-Louis Bruno, les druides, N'ont-ils existé que chez les Gaulois ou est-ce qu'il y a eu des druides chez les Celtes?
Alors voilà, ça c'est une question effectivement très pertinente. Ils ont principalement existé chez les Gaulois qui sont la partie, disons, du monde celtique la plus ancienne, la plus intellectuelle et celle qui a eu les contacts les plus forts avec le monde gréco-romain. Et alors il y a eu une sorte d'émanation des Celtes de Gaulle en Bretagne, donc en Grande-Bretagne, dans la partie méridionale de l'île, à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est la seule extension réelle de ces druides. Sinon, on ne les trouve nulle part ailleurs, et on n'est pas sûr non plus que les druides se soient étendus sur toute la Gaule. C'est surtout la Gaule centrale et la Gaule du Nord.
D'accord. Et si on remonte, alors on va maintenant remonter le temps le plus loin possible, parce que je disais, c'est difficile de mener l'enquête dans une période aussi lointaine, alors... Que dit l'archéologie? Que dit la philologie, puisque maintenant c'est de quoi, de ce que recouvre ce mot, sur les premiers témoins, c'est-à-dire les premières personnes qui ont rencontré vraiment des druides et qui en ont fait état?
Alors ça, c'est un point très important, parce que c'est là-dessus que mes prédécesseurs historiens des religions et ceux qui ont travaillé sur les druides se sont un peu trompés. Ils ont cru que la personne qui avait le mieux rencontré les druides, en quelque sorte, est César. Or, c'est totalement faux, donc on verra que c'est une histoire beaucoup plus ancienne. Bon, César s'est servi d'un auteur un petit peu plus ancien que lui et très prolifique, dont on pourra beaucoup parler, qui est Posidonios d'Apamée. Mais en réalité, les Grecs avaient rencontré les druides beaucoup plus anciennement, très certainement dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que des gens comme Platon, a fortiori Aristote, étaient parfaitement au courant de l'existence des druides. Et en réalité, dès que les premiers philosophes grecs qui ont commencé à réfléchir sur l'origine de la philosophie grecque ont posé ces questions des influences, des origines, etc., ils ont tout de suite pensé aux druides. Donc ils savaient déjà qu'il existait ces savants dans l'Occident.
Voilà, mais alors on les présente, alors là il faut faire... il faut continuer l'enquête dans les mots. Druide, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous proposez deux acceptions, enfin deux traductions. Les très savants, vous dites, ou les savants
alors, par l'arbre.
Par l'arbre ou voilà, par le chêne. Ou je sais pas.
C'est pas moi qui propose.
Non, c'est pas vous. Mais...
voilà, donc c'est un problème qui s'est posé effectivement aux historiens. Le mot druide, c'est l'appellation habituelle pour désigner ces individus. Ouais. Et donc... On est amené à penser que c'est eux-mêmes qui se désignaient par ce terme. Oui. La difficulté vient peut-être tout simplement que le mot druide ressemble beaucoup à un terme grec qui est drus, qui veut dire l'arbre. Oui. Et comme ils étaient très, très liés aux Grecs, et notamment ils utilisaient la langue grecque, les historiens antiques, puisque ça remonte encore une fois aux historiens antiques, ont commencé à dire les druides, ce sont les gens de l'arbre, les savants de l'arbre, puisqu'il y a ce mot drus qui est dans leur mot. Mais évidemment, c'est un mot grec et ça n'est pas possible. Ouais. Donc, il faut imaginer une autre traduction, celle qui paraît effectivement la plus sûre, la plus assurée, celle du très savant.
Donc, ce qui nous renvoie là, justement, vers des personnages qui peuvent être des philosophes, qui peuvent être des...
Voilà, et qui affirmaient d'emblée qu'ils étaient très savants et ils ont été tout de suite reconnus par leur père, par la population dans laquelle ils régnaient, en quelque sorte.
Mais Jean-Louis Bruno, il y a quand même des textes, on y reviendra plus finement, mais il y a quand même des textes qui parlent de sacrifices humains, il y a quand même des textes qui parlent de serpes, alors serpes d'or d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai oublié si,
oui, tout
si
à
on
fait.
Parle de serpes d'or,
bien sûr.
Et de chênes et de forêts profondes.
Voilà, oui.
Alors,
voilà, donc
qui en parle de ça?
Qui parle de ça? Ça, ce sont des histoires effectivement anciennes. Donc, c'est Pline l'Ancien, dit le naturaliste, qui a écrit un très très beau texte où il décrit la cueillette du gui. Et il s'est trouvé que, bon, effectivement, peut-être parce que c'est un beau texte, parce qu'il a vraiment une coloration poétique très affirmée, c'est lui qui a marqué des générations d'historiens. Et on s'est focalisé sur ce texte pour dire les Gaulois vivaient dans les forêts. Ils honoraient le chêne et ils faisaient les sacrifices au pied du chêne, et puis donc ils n'avaient pas de religion propre, ils n'avaient pas de lieu de culte, et tout se faisait comme ça dans
les sortes de chamans qui étaient
dans les forêts profondes, et tout ça a été un petit peu réaffirmé à l'époque romantique, puisque donc avec le romantisme allemand on était très intéressés par le naturisme, la proximité avec la forêt, le mythe du bon sauvage en quelque sorte. Ouais. Tout ça donc a fait un mélange très détonnant qui a fait que les historiens, jusqu'à la fin du XXe siècle quasiment, ont été persuadés que les Celtes, les Gaulois, n'avaient pas de religion propre en quelque sorte, mais faisaient comme ça des sacrifices dans la forêt et les druides passaient leur temps à couper du gui. En réalité, ce texte de Pline est certainement la copie d'un texte de Posidonios d'Apamée qui expliquait qu'il fallait procéder à des cueillettes. Et comme chez les Grecs, de la même manière, quand on cueillait des aromates, par exemple, Marcel Détienne écrit un très beau livre sur le sujet, il fallait des rites parce qu'on ne fait pas des prélèvements dans la nature de n'importe quelle façon.
On va parler de ce personnage, puisque vous avez dit que Jules César s'était inspiré de lui, et dans votre enquête, c'est très important, le témoignage, entre guillemets, de César, parce qu'il n'a pas forcément décrit ce qu'il a vu,
non.
Mais il y avait peut-être des intentions politiques derrière tout
bien
ça,
sûr.
Qu'il se fasse mousser
ouais.
un peu quand même. Mm-hmm. Bon, alors on en parle dans un instant, on continue cette enquête passionnante sur les druides.
Que sait-on des druides?
Alors finalement, on en sait...
C'est une émission ce matin, avec Jacques Pradel et Jean-Louis Bruno.
Oui, alors Jean-Louis Bruno, je rappelle, donc chercheur au CNRS, c'est un... vous êtes archéologue. J'ai pas dit d'ailleurs. C'est, on dit des gens, vous savez, quelquefois, qui sont nés coiffés. Vous êtes un archéologue né coiffé parce que j'ai vu dans votre biographie qu'à 22 ans, oui, né coiffé. Vous savez, j'ai dit, vous savez pas ce que c'est. Ah, oh, vous avez jamais
ça
entendu parler de ça. Bah, c'est des enfants qui naissaient, qui à la naissance avaient des cheveux, ce qui est pas le cas de tous les enfants. Et à ce moment-là, on pensait que c'était un signe, peut-être, qui allait donner à cet enfant beaucoup de chance dans la vie, etc., etc. Voilà. Là, je faisais allusion à ça. Et alors Jean-Louis Bruno, je ne veux pas parler de votre naissance, mais à 22 ans, votre naissance à l'archéologie peut-être, à 22 ans, près de chez vous, vous tombez sur un sanctuaire gaulois.
Oui, enfin c'est une façon un petit peu résumée de dire les choses.
Oui,
je ne suis pas tombé sur un sanctuaire gaulois, je suis effectivement, enfin j'ai découvert
comment,
effectivement...
Comment, vous n'êtes pas réveillé en vous disant il faut que j'aille faire un tour dans cette forêt profonde?
Non. Mais c'est vrai, c'est une forêt. J'ai découvert des vestiges dont on ne savait absolument pas ce qu'ils étaient, parce qu'à cette époque-là, donc il s'agit de 1975, les sanctuaires celtiques et gaulois n'avaient pas encore été découverts.
D'accord.
Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on ne savait pas que ça existait parce qu'on ne s'était pas vraiment posé la question, tout simplement.
D'accord.
Et face à des vestiges qui, bon, étaient quand même exceptionnels, là, effectivement, la réflexion a fait que je me suis dit, mais c'est probablement cultuel. Et pourquoi ces gens-là n'auraient-ils pas des lieux de culte comme les Grecs et les Romains? Enfin, en gros, c'est la réflexion de base.
Ben voilà, c'est voilà. Bien. Et puis après.
Et c'est ainsi que les sanctuaires celtiques sont nés, en quelque
celui-là,
sorte.
Celui-là, il était à Gournay.
Gournay-sur-Aron, près de Compiègne.
Ouais.
Et ça reste le plus beau et le plus représentatif des sanctuaires. Et justement, il est actuellement reconstitué à l'exposition de Lyon, dont vous parlerez tout à l'heure, au musée gallo-romain.
Absolument. Il y a une exposition qui s'appelle d'ailleurs Partout Atis.
La religion celtique.
La religion celtique.
Voilà.
En plein dedans. Et donc, on aura le conservateur du musée archéologique de Lyon-Fourvière qui sera au téléphone
voilà,
après.
Je serai très heureux.
Bon, alors, après cette parenthèse historique, on revient à nos druides. Donc, si j'ai bien compris. En vous disant, le livre est très simple et très clair, et je vous rassure tout de suite, on n'a pas l'impression de parler de lire une langue étrangère. vous dites, bon, en gros, les premiers témoignages, je reviens au côté enquête, là, dans le passé, les témoignages de pratiquement 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la période des Romains, quoi, Jules César, un petit peu avant, 50,
60 à peu près,
bon,
avant Jésus-Christ, oui.
Ce sont des Grecs.
Bon. Absolument.
Après
oui.
ça, il y a des Romains, mais on s'aperçoit que les Romains sont souvent inspirés des Grecs. Alors, ma question est très simple, c'est quel est le portrait du druide qui peut apparaître devant nos yeux en lisant les témoignages de ces Grecs, et puis comment les ont-ils lus ces témoignages? Parce qu'on n'a pas l'impression que les gens voyageaient si facilement à une époque aussi reculée.
Voilà. Détrompez-vous, bon. Donc les Grecs voyageaient beaucoup.
Ouais.
Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas ils se sont pas facilement aventurés dans l'Occident, qui pour eux restait vraiment très très mythologique. Depuis Homère, on parlait des hyperboréens, donc les gens qui vivaient sous le vent de Borée. Donc c'était le nom qui a précédé celui de Celtes. Quand on a connu l'existence des Celtes, on a dit tous ces gens-là sont des Celtes.
Ouais.
Et les Grecs, progressivement, se sont aventurés dans ces terres gauloises, surtout grâce aux commerçants, les commerçants grecs, qui ont fait un petit peu le travail de défrichage et qui ont apporté des informations. Et beaucoup de ces informations sont passées par Marseille.
C'est donc, ça, voilà. D'où l'importance de la ville de Marseille.
Marseille, évidemment est capitale. C'est le rayonnement intellectuel grec qui se fait par Marseille, d'où partent des routes route qui monte notamment en direction de la Grande-Bretagne pour aller chercher l'étain, ou de l'océan en passant par Narbonne et Toulouse pour aller donc vraiment sur l'Atlantique.
D'accord. Et alors, vous allez beaucoup plus loin. Je ne sais pas comment vous avez eu ce genre d'informations, vous allez me le dire, mais vous dites, bon, alors on imagine un grec, il arrive chez les barbares, quoi. D'ailleurs, barbare, au passage, vous dites, c'est une sorte d'imitation, parce que c'est d'une langue...
Voilà, barbare est un mot grec, c'est un mot...
C'est des gens dont on ne comprend pas la langue.
Voilà, quoi. Donc barbare, c'est un peu comme borborigme. Ouais, c'est des gens qui font des borborigmes, c'est ça, c'est ce que veut dire barbare. Mais chez le grec, ça n'est pas du tout péjoratif. C'est quelqu'un qui ne parle pas la langue grecque, c'est tout.
Voilà, c'est tout.
Et c'est plutôt à partir des Romains que ça devient vraiment très péjoratif.
D'accord, alors ils arrivent là, dans ce pays dont ils ne parlent vraiment pas la langue, mais on imagine quand même des gens qui traduisent. Etc.
Bien sûr, oui.
Il y a toute une organisation, vous dites, pour ces voyages. L'hospitalité gauloise, appelons-la
voilà,
comme ça, est formidable.
Ah, c'est une réalité. C'est-à-dire que les Gaulois ont ça de vraiment fascinant, c'est que ce sont des gens extrêmement ouverts. Notamment, donc, ils attendent tout des étrangers. Et alors, il y a eu des légendes grecques pour expliquer ça. On a dit que Héraclès était passé en Gaule et que Héraclès avait construit des routes, avait interdit la maltraitance des voyageurs, etc. Et depuis qu'Héraclès était passé en Gaule, les Gaulois étaient très accueillants. Et c'est vrai qu'on a des descriptions qui nous disent que dès qu'un voyageur entrait dans un village, on le submergeait de questions, on lui faisait des présents, on l'invitait à manger, etc. Oui, et il ne pouvait plus repartir tant qu'il n'avait pas répondu. À toutes ces questions.
Alors, on lui donnait le gîte et le couvert.
Ah, tout à fait.
Mais
oui,
ça allait encore plus loin, l'hospitalité de l'époque, puisque les gens accompagnaient même dans leur voyage.
C'est ça. Donc, ils faisaient les relais, puisqu'on avait des peuples qui, donc, étaient essaimés les uns derrière les autres. Donc, ils faisaient la transition de façon à ce que les voyageurs grecs puissent avancer. Sinon, ils n'auraient pas pu le faire.
Ah, bah, tiens, je vous emmène, on va faire 50 km, puis là, bon, bah, continuez.
Bien sûr. Et alors, après, il y a un autre temps fort qui est le voyage de Pythéas. Qui a été malheureusement très très déprécié parce que Pythéas a eu beaucoup d'ennemis dans l'Antiquité, donc des gens comme Polybe, ensuite Strabon, qui l'ont décrié et qui n'ont jamais voulu croire que Pythéas était allé jusque dans la mer du Nord.
On a pensé qu'il avait menti, quoi.
Et on a pensé que c'était un véritable menteur. Et maintenant, donc beaucoup de découvertes, notamment archéologiques, ont montré qu'il avait fait ses voyages.
Et voilà, ça c'est passionnant.
Et c'est absolument passionnant. Et donc là, on a eu d'autres informations qui ont transité par les côtes et notamment par la Bretagne.
Ouais. Alors, pour notre enquête sur les druides et sur la civilisation gauloise à cette époque-là, ce sont des pièces à conviction formidables, ces témoignages dont on parle, parce que ils décrivent, mais ils écrivaient comment ou quand, en rentrant chez eux, on trouve ça sur quoi? Sur des papyrus, sur des tablettes gravées?
Ah, c'était des choses qui se trouvaient dans les bibliothèques, notamment. Il y avait dans l'Antiquité grecque, des bibliothèques à Athènes, mais aussi dans des villes comme Rhodes et ensuite Alexandrie, donc... Ouais. Il y avait des savants qui se consacraient uniquement à l'histoire, donc qui ont écrit l'histoire de la Méditerranée, donc des gens comme Timée, d'autres qui se sont consacrés à la géographie, un très très
donc
grand...
Des gens qui rencontraient comme ça ces voyageurs et qui rendaient compte après,
Qui déjà avaient des démarches scientifiques vraiment très, très affirmées, qui faisaient des calculs sur les étoiles. Donc c'est le cas d'un très grand géographe qui était Ératosthène, qui est le premier grand géographe de l'Antiquité. Donc chacun était très spécialisé. Et donc, les Gaulois ont été observés essentiellement par Ératosthène pour la géographie.
Ouais.
Donc ça, c'est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et par un historien d'origine siciliote qui est Timée Taormine, qui, lui, s'intéressait beaucoup à la religion, à la société, et qui a inspiré donc Posidonios d'Apamée, dont on a déjà parlé.
Alors, avant que Jules César vienne mettre son grain de sel là-dedans, qu'est-ce qu'on peut retirer scientifiquement, là, hein, puisque on n'est pas en train de parler de mythes, de légendes et de choses comme ça. Qu'est-ce que disent ces textes, alors?
Ah bah, ces textes disent
sur les druides, hein.
Tous la même chose. Les druides sont des philosophes, sont des savants, tout simplement.
D'accord.
Et tous ces textes nous disent que ce sont des gens qui sont très proches des pythagoriciens. Donc là, il faut absolument qu'on parle des pythagoriciens
pour qu'on puisse
comprendre. Ouais. Donc les pythagoriciens, ça n'évoque peut-être plus grand-chose maintenant à tout le monde, mais on a tout de suite reconnu le nom de Pythagore. Donc
théorème de Pythagore,
voilà,
ça fait souffrir
de Pythagore,
un certain
nombre. Pythagore était un personnage, surtout un très grand philosophe, du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il ne faisait pas que des maths. Et il a fait une école philosophique. En Grèce et ensuite en Grande-Grèce, c'est-à-dire la Sicile et le sud de l'Italie, qui a une particularité tout à fait étonnante pour l'Antiquité et qu'on ne retrouvera qu'au Moyen-Âge avec des gens comme François Bacon en Angleterre, il fait de la philosophie opérative, c'est-à-dire c'est la philosophie de l'action. D'accord. Contrairement à ses collègues, même des gens comme Platon, qui s'intéressaient malgré tout à la politique, lui, bon, on est un petit peu à une date antérieure, hein, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, lui veut absolument que les idées philosophiques, notamment la morale, aient des applications politiques dans la société. Et donc, c'est pourquoi il s'installe en Sicile avec ses disciples. Oui. Et là, ils prennent le pouvoir dans un certain nombre de cités, où ils font des cités en quelque sorte philosophiques. Oui. Et donc, tous les auteurs antiques grecs nous disent que les druides se sont comportés de la même manière. Et effectivement, les témoignages qu'on aura grâce à César d'autres auteurs montrent que les druides ont eu la même préoccupation de cette philosophie de l'action. Et de l'insertion dans la société. D'accord. Donc les druides, c'est tout le contraire de gens qui seraient un petit peu comme des moines ou
des ermites au fond
des forêts. Oui. C'est pas du tout ça. Oui. Ce sont des gens qui veulent absolument transformer la société et la moraliser.
D'accord. Bon, alors ça c'est clair, c'est très net, précis. On continue à parler de tout ça en voyant ce que Jules César en a dit.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les druides, osez le demander au 01 42 32 15 15 ou alors sur internet europe1.fr.
Voilà, et me posez pas trop de questions, parce que je risque de pas bien répondre. Merci.
Mais vous avez un spécialiste avec vous.
Attendez, non. Ce que je dis, je le prouve. Je voudrais remercier Véronique, Magali, Catherine et les autres qui viennent de me dire, je dis évidemment une bêtise de plus, mais bon... Un jour, je les publierai, à propos des enfants nés coiffés. Alors, toutes ces auditrices et d'autres, bien d'autres, nous disent, les enfants nés coiffés naissent pas avec des cheveux, ils naissent avec une partie du placenta sur la tête. Voilà. Et ce sont des enfants qui gardent une partie de la poche des os, parfois toute la poche des os intacte sur la tête. Et on dit, nous précise Catherine, qui est sage-femme, donc on peut pas bien tomber non plus, et qui nous appelle du département de l'Ain, elle dit, on dit que c'est un signe de chance et de génie, et on dit aussi que Napoléon et Jules César, vous voyez la transition, seraient nés coiffés, voilà. Donc bon, vous l'avez appris comme moi,
je crois. Moi aussi,
Jean-Louis
Bruno. Bon.
Alors, Jules César, on va peut-être en parler dans un instant, parce que en fait, les questions nous précèdent, si j'ose dire, précèdent notre propos. Beaucoup d'auditeurs nous disent, mais vous avez dit c'était des philosophes, c'était des philosophes de l'action, c'était des gens qui avaient certainement un impact moralisateur, ou enfin, en tout cas, une morale, quoi. Hein, ils incarnaient une morale, mais il y avait aussi une religion. Or, on a un certain nombre de questions là-dessus. Alors, on parle d'abord un tout petit peu de Jules César, peut-être, qu'est-ce qu'il a décrit des druides. Puis après, on passera avec une auditrice que je remercie d'attendre quelques instants en ligne, qui s'appelle Marie-Christine, et qui vous posera une question très pertinente. Alors, Jules César.
Alors, Jules César, il faut savoir tout simplement que Jules César a évidemment conquis la Gaule, mais contrairement à ce qu'on a très très longtemps pensé, il n'a pratiquement pas vu la société gauloise, et il n'a pas vu ni la religion en action, ni les druides en action. Donc ça mériterait...
Bon,
non, donc c'est des choses qui étaient déjà en partie disparues. Ouais. Et quant au...
Donc
quand il raconte sa campagne, tous les faits militaires, bon, effectivement, ce sont des choses qu'il a connues, puisqu'il était au cœur de l'action, mais il n'a pas pu voir effectivement des cérémonies religieuses qui étaient réservées à des individus très particuliers.
Alors qu'il en décrit.
Alors il en parle dans une partie de son livre, qui est le livre 6, un passage très célèbre, qu'on appelle le cursus ethnographique, qui est en fait une copie, tout simplement, un résumé de cet auteur, Posidonios d'Apamée, qui a écrit dans les années 100.
D'accord.
Et il a utilisé ce passage, tout simplement pour combler, en quelque sorte, un trou dans ses résultats militaires, parce que la guerre des Gaules, donc l'ouvrage de César, c'est un ensemble de rapports qui étaient envoyés au Sénat pour demander de l'argent.
Et bien sûr,
au moment du sixième livre, qui correspond à une année où les résultats sont mauvais, donc il comble par cette description de la société...
Distrait un peu ses lecteurs.
Il distrait ses lecteurs.
Il y a aussi des choses passionnantes à voir.
Pour nous, c'est précieux parce qu'il nous donne la meilleure description de la société gauloise en une vingtaine de pages qui, évidemment, sont fort précieuses, mais qu'il va falloir décrypter parce que ce sont des choses déjà plus anciennes que l'époque.
Parce que l'original avait disparu. Il s'inspire d'un texte qu'on a retrouvé aussi. Donc
À l'époque où lui écrit, ce livre-là était très, très connu. On appelle ça le Baedeker. Donc, c'était un petit peu le guide touristique de la Gaule. Et tous les Grecs et les Romains avaient ce livre de Posidonios en poche.
Et là, il a pompé.
Il a pompé, mais il a résumé.
Si j'ose dire, avec les Romains.
Et il a fait ça quelquefois en synthétisant un petit peu et effectivement, il a déformé la réalité.
Alors, c'est très intéressant parce qu'il parle aussi, mais en s'inspirant donc d'autres, évidemment, mais en prenant à son compte les choses, et à un moment, il fait toute une description des dieux gaulois, mais qu'il romanise, etc. Mais avant que vous répondiez à ça, on va prendre Marie-Christine, qu'elle vous pose cette question, parce que c'est une question qui tombe pile poil, là, dans notre réflexion. Bonjour Marie-Christine.
Oui, bonjour. Bonjour Jacques.
Merci hein, de vous intéresser aux druides. Vous y intéressez d'habitude ou c'est juste parce que vous avez entendu parler ce matin?
Comment?
Je dis, vous y intéressez déjà aux druides ou c'est parce que l'occasion faisant le larron, parce que vous entendez Jean-Louis Bruno, que vous êtes dit mais...
Un peu les deux, en fait, je suis passionnée par l'histoire et surtout par l'Antiquité, les Romains, la Gaule, donc c'était vraiment l'occasion qui fait le larron. Là.
D'accord. Donc,
c'est une question que je me pose souvent. En fait, je crois savoir que les Romains étaient très tolérants envers les religions des peuples qu'ils avaient conquis et j'ai été surprise d'apprendre que les Romains, en fait, avaient vraiment persécuté les druides et j'aurais voulu savoir la raison.
Ah ben alors voilà, très bien, ben vous allez avoir la réponse.
Bon ben, notre auditrice est effectivement oui. très savante, il est absolument exact que les Romains sont très tolérants en matière de religion étrangère, donc oui. ils acceptent les dieux étrangers à Rome, mmh. mais pour ce qui est de l'éradication en quelque sorte de la religion druidique, c'est oui. un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les Romains sont très tolérants religieusement, donc pour les peuples qu'ils conquièrent, oui. Mais ils n'acceptent pas qu'une autre religion que la religion romaine devienne une religion publique. Et religion publique, ça nécessite un petit peu une explication. Oui. La religion publique, c'est une religion quasiment d'État qui est associée au pouvoir. Et évidemment, ils ne pouvaient pas accepter que les Gaulois gardent leur religion comme une religion nationale.
Alors vous voulez dire, par exemple, que les Romains, leur attitude, c'était de dire « vous avez des croyances ». On va pas vous
absolument, vous ça ne les intéressait pas du tout. Oui,
mais n'allez pas plus trop loin quand même, parce que il y a un domaine réservé. La seule religion d'État quand même, c'est la religion.
Voilà,
c'est-à-dire
sur ouais. les chefs-lieux de cité, sur les chefs-lieux de cité. Comme par ouais. exemple, Néluthès, qui était un chef-lieu de cité de la cité des Parisiens.
Oui.
Il y avait effectivement un temple, tout un tas d'organes religieux officiels.
Oui.
Et là, on pratiquait une religion romaine.
D'accord.
Il n'était pas question de oui. pratiquer une religion gauloise.
Et alors les druides ont
mais la persécution, non, c'est plus complexe que ça, parce que les druides, en réalité, sont des nobles, appartiennent à la noblesse gauloise, et contrairement à ce qu'on a dit pendant deux ou trois siècles, enfin ce qu'ont dit les historiens de la France,
oui, oui.
Les nobles gaulois se sont, ont collaboré très très vite avec César, et oui. en réalité, il n'y a pas eu nécessité de persécuter les druides. Les druides avaient disparu, déjà ils avaient disparu en grande partie avant l'arrivée de César et la conquête romaine les a fait disparaître complètement
d'accord.
sans qu'il était nécessaire de les persécuter.
Mmh. Voilà, donc là c'est parce qu'il y a quelquefois des raccourcis comme ça.
Voilà, c'est un raccourci et surtout certains auteurs, donc c'est surtout Suétone qui nous raconte ça, a parlé de religion druidique pour simplement parler de cette ancienne religion publique gauloise mmh. qui, elle, effectivement, n'était pas tolérable pour un Romain administrateur.
D'accord. Voilà, Marie-Christine, la réponse.
Bah, c'est parfait. Et sinon, je voulais juste rajouter un petit mot, juste savoir si les druides n'ont pas été persécutés comme je le croyais, mais est-ce qu'au niveau des dieux gaulois, ça perdurait encore quelque peu ou pas du tout? Est-ce qu'on le sait?
Oui, oui, nous le savons assez bien, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où effectivement les dieux gaulois ont pris des noms qui sont des noms associés aux Romains, donc souvent ils ont eu un double nom gaulois et romain, et ça a duré effectivement très longtemps, pendant tout l'Empire romain, les dieux gaulois ont continué à vivre, mais ils étaient un petit peu dénaturés parce qu'ils avaient souvent un nom romain, et puis voilà, on a ouais. fini par les honorer avec une mode culturelle romaine.
D'accord.
Voilà, bah écoutez, merci en tout cas de votre question. C'est une très bonne matinée, Marie-Christine.
Merci, au revoir.
Au revoir. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous venez de nous annoncer sans tambour et sans trompette que les druides avaient quasiment disparu à l'époque de Jules César.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ah bah ce qui s'est passé, c'est que finalement leur mission en quelque sorte avait trop réussi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi pour les pythagoriciens en Grande Grèce, c'est-à-dire ouais. que une fois qu'ils ont réussi à aboutir finalement à mettre sur place des constitutions politiques, ils n'avaient plus vraiment lieu d'être et ouais. ils se sont un petit peu fondus dans la noblesse, et c'est un mouvement qui s'est opéré dans le courant du deuxième siècle avant Jésus-Christ.
D'accord, mais ça veut dire aussi que leur rôle religieux n'était pas si important que ça, alors, parce
pas
que sinon
tout.
Ils seraient restés en tant que prêtres.
Enfin,
on a cette idée-là, oui.
Pas important, oui. C'est-à-dire que c'est surtout un rôle de théologien. Et d'ailleurs, les auteurs grecs qui parlent des druides dont on parlait tout à l'heure, utilise le mot théologoi, c'est-à-dire que les druides sont des savants qui donnent en quelque sorte la théorie. la théorie religieuse, ouais. mais qui ne pratiquent pas eux-mêmes. Donc D'accord. ils sont importants dans la mesure où ouais. ils orientent la religion,
ouais.
ils la contrôlent aussi, mm-hmm. mais ils ne la pratiquent pas eux-mêmes.
Ouais. Alors, il y a une chose, on a du temps là pour que vous nous expliquiez ça, je profite de vous au maximum.
Hein, allez-y, je vous en prie.
On a l'idée d'abord, mais après on verra, un petit peu après 10 heures, vous nous direz comment est le mythe quand même, hein, finalement, parce que, en fait, l'image qu'on a de cette société, elle est faussée par les mythes qui sont nés de façon postérieure et qui perdurent encore aujourd'hui. Mais vous dites, les nobles, vous avez parlé de princes, de gens qui, dans des cités, donc tout ça, c'est une civilisation, ce sont des gens civilisés. Or, on a une image de barbares, on a des descriptions aussi que vous citez dans votre livre de gens, c'était des guerriers quand même assez peu fréquentables, les Gaulois, ils se battaient nus, je sais pas si le fait d'être nu, ça devait effrayer plus leurs adversaires. Donc il y a un truc qu'on comprend pas, quoi. On se dit, mais alors, s'il y avait des nobles, s'il y avait des princes, et s'il y avait cette société si policée, etc., comment se fait-il qu'il y ait aussi des sacrifices humains qui sont décrits avec un luxe de... C'est gore, hein, les témoignages que vous donnez, là. On lit même l'avenir dans les entrailles d'un prisonnier qu'on sacrifie.
Bien sûr. Bon, effectivement, ce sont des gens civilisés, et ils sont, disons, civilisés au sens où on l'entend actuellement, depuis les premiers temps du début du premier millénaire. Donc, ouais. effectivement, on a une civilisation qui est déjà très brillante. Bon, c'est ce qu'on appelle l'âge du fer, ouais. le premier âge du fer, et pour les Gaulois proprement dit, c'est plutôt le deuxième âge du fer. Ouais. C'est une civilisation très formée, avec des couches sociales marquées. Donc, effectivement, ouais. il y a une noblesse, ouais. il y a une plèbe.
Alors ça, vous le savez, vous, en tant qu'archéologue, parce que vous avez retrouvé des tombes où il y a des personnages qui sont enterrés avec des...
Voilà, on le sait à la fois par l'archéologie, ouais. mais aussi par les textes, parce que ouais. les textes mm-hmm. dont on vient de parler, là, notamment ce résumé de César le dit très bien, mais ouais. c'est effectivement confirmé par l'archéologie. Ouais. On a effectivement non seulement des sépultures, mais aussi des habitations qui sont ceux des nobles. Ouais. Et puis, par ailleurs, on a effectivement des habitations beaucoup plus humbles, là, qui sont ouais. celles de la plèbe, des ouais. artisans.
Ouais. D'accord. Donc, ces druides vont finir par disparaître, parce que vous dites, ils sont en fait assimilés, enfin, ils sont... Oui, ils se diluent, quoi, dans la société.
Ils se perdent dans la politique, en quelque sorte. Et d'accord. alors, je ne dis pas ça gratuitement, je dis ça parce qu'on a un exemple qui nous est donné par le seul druide connu. Il n'y a qu'un seul druide qui soit connu, qui est une réalité historique, qui s'appelle Divikiak.
Ah, Divikiak.
Divikiak ou Divikiakos, bon, ça dépend comment on
l'interprète. Il est cité par un certain nombre de...
Alors, Divikiakos, c'est un personnage tout à fait connu, donc qui est un Éduin, donc de la région d'Autun, qui était l'un des peuples les plus importants de Gaule à cette époque-là. Ouais. Et ce Divikiak est un grand compagnon de César, et c'est un ami, un collaborateur de César. Et alors, ce qui est absolument...
Dans tous les sens du terme, alors.
Ah, tout à fait. Oui, vraiment collaborateur. Ouais. Ouais. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que César, dans ce passage où il recopie l'œuvre de Posidonios, nous parle des druides.
Ouais.
En dehors de ce passage, quand il décrit tous les événements militaires, il ne parle plus du tout des druides.
Ouais.
Or, il a vécu une grande partie de ces événements militaires en compagnie de ce Divikiak qui était druide,
oui.
et à aucun moment César ne nous dit qu'il est druide.
Et alors, donc vous en tirez quoi comme conclusion?
On en tire la conclusion qu'il avait effectivement une formation de druide, une formation intellectuelle, il avait fait un cursus
donc
druidique.
Là c'est le côté, les druides sont à la fois des philosophes et des éducateurs.
Et là il
de
était
jeunesse,
devenu un homme politique qui ne s'intéressait plus qu'à la politique.
D'accord.
Et très certainement au commerce.
D'accord.
Et on sait qu'il est druide, pas par César, on l'a appris par Cicéron.
D'accord.
qui connaissait également ce Divikiak.
C'est vraiment l'enquête. Hein, là.
Voilà, c'est une enquête.
Oui, absolument.
Et
ouais.
Parce que, donc, dans les années 63 ouais. avant Jésus-Christ, avant que César n'occupe la Gaule,
ouais.
il y avait eu des frictions terribles avec les Germains. Les Germains avaient détruit toute la noblesse éduenne.
Ouais.
Et ce Divikiak avait été obligé de se réfugier à Rome. Donc, vous voyez que, finalement, les contacts entre Rome et les Gaulois étaient déjà très... Et Divikiak était allé habiter chez Cicéron, dans sa magnifique maison sur le Palatin.
Ouais.
Et là, ils ont eu des conversations très philosophiques, notamment sur la divination, et c'est comme ça que nous savons que Divikiak était un devin, donc il avait une spécialité de divination,
ce que pratiquaient les Romains aussi.
Et Cicéron, le premier, Cicéron était augure. Alors ils ont pu en discuter, et en fait, on voit très bien qu'ils ont le même cursus. Cicéron avait une éducation d'augure, en quelque sorte, religieuse, et il était cet homme politique très célèbre que l'on connaît, et Divikiak de la même manière.
Ah, il nous reste 2 petites minutes avant les infos, 2-3. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sacrifice humain, donc pour justement faire de la divination? Il y a même pire que tout. Vous décrivez une scène, enfin c'est pas vous évidemment, mais vous êtes dans les textes, On va taper sur quelqu'un, finalement, pour voir de quelle manière cette personne va s'écrouler, tomber, mourir tout de suite, pas tout de suite, etc., pour en tirer, effectivement, une divination.
Oui, alors, si on veut faire rapidement, disons que ce sont des choses qui n'étaient pas propres du tout.
Vous avez trois minutes.
Pas du tout propres aux Celtes, qui existaient aussi dans d'autres civilisations, et à une date très haute chez les Grecs. Donc, cette façon de faire de la divination sur des victimes sacrificielles, c'est quelque chose de très, très habituel.
C'est banal à l'époque.
Ah oui, oui, non, le fait de voir comment effectivement...
Nous, ça nous choque maintenant, à
quels sont les soubresauts de la victime, la façon dont s'écoule le sang, malheureusement c'est habituel. Mm-hmm. Quant au sacrifice humain, il a existé chez les Grecs, tout le monde connaît Iphigénie par exemple, il a existé aussi chez les Romains, même à une date assez, assez récente, mais en fait cette focalisation sur le sacrifice humain, ce sont en quelque sorte des images de rhétorique qui doivent beaucoup notamment à notre ami Cicéron, qui pour des raisons de plaidoirie, puisque c'était un avocat, a beaucoup utilisé ce ressort qui plaisait beaucoup au latin, de dire mais ces Gaulois, ce sont vraiment des barbares, ils pratiquaient le sacrifice humain, ne peut pas avoir confiance en eux. Or, il faut savoir qu'à cette époque, depuis 125 avant Jésus-Christ, une partie de la Gaule était devenue romaine. Donc la fameuse provincia qui est devenue la Provence était romaine, mais la population était gauloise, et les Gaulois avaient à se plaindre de leurs administrateurs romains. Donc ils sont venus à plusieurs reprises demander raison, notamment aux tribunaux à Rome, et ils ont eu affaire à Cicéron en tant qu'avocat, qui était le défenseur.
Il ne faut pas prendre comme argent comptant tout ce qui se dit.
Cicéron, il y a deux, voire trois discours chez Cicéron. Il y a ces discours de justice qui n'ont aucune valeur, puisque c'est vraiment de la pure rhétorique. Et puis, il y a ces essais philosophiques, notamment celui qui s'appelle De la divination, là, qui sont vraiment des œuvres intellectuelles qui ont une valeur très importante.
D'accord. Et alors, d'un autre côté, même Jules César, quand il parle des Gaulois, il n'a pas trop intérêt à dire que c'est une civilisation très policée avec des gens formidables, parce qu'il est quand même là pour les conquérir. Il faut bien qu'il donne l'impression à ses sponsors, à son pentagone, à lui, que vraiment on a besoin de lui et que c'était pas facile.
Oui, ça c'est juste, mais d'un autre côté, il a aussi renforcé un petit peu la description des druides pour montrer que ces Gaulois étaient quand même des gens civilisés, parce qu'il faut savoir quand même qu'une partie de la population latine et romaine était un petit peu arriérée, au moins intellectuellement. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette région? Est-ce qu'on va pouvoir civiliser ces gens-là?
Est-ce qu'on va pouvoir faire du commerce?
Et les druides, le fait qu'il y avait des druides qui contrôlaient un petit peu cette société, donnait l'assurance à ces Romains qu'ils allaient pouvoir travailler.
Voilà, comme quoi, vous voyez, quand je disais allons au-delà des idées reçues, sortons des images d'Épinal, ça se complique, mais vous l'expliquez simplement, donc c'est formidable.
Qui sont les druides? Des moines et des ermites pour le commun des mortels, des prêtres, selon le dictionnaire, je viens de vérifier, prêtres celtes en Gaule, nous dit-on. Mais pour les intellectuels grecs, pour les auteurs grecs, ils sont des philosophes, des savants, moralisateurs certes, mais soucieux d'améliorer la société gauloise. Et c'est une thèse à laquelle vous adhérez, Jean-Louis Bruneau. Vous consacrez aux druides un ouvrage qui paraît au Seuil sous le titre « Les druides, des philosophes chez les barbares ».
C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que je crois que vous ne défendez pas de thèse, c'est-à-dire que vous ne roulez pour personne et vous avez essayé de laisser les idéologies à la porte de votre laboratoire et de vos réflexions. Mais en même temps, ce qui vous a poussé à faire cette enquête, si j'ai bien compris, c'est justement qu'on mélange tout.
Voilà, donc effectivement, il y a tout ce magma idéologique qui tourne autour des druides et qui empêche effectivement d'accéder à un monde qui, enfin, j'espère le montrer, est quand même fascinant, non pas par ses pouvoirs magiques, tout ce qui est un petit peu irrationnel, mais au contraire par la rationalité et par cette première approche intellectuelle qui remonte quand même haut dans l'Antiquité et qui touche un monde, donc c'est l'Occident européen, qui jusqu'à présent, enfin... C'est ça que ça commence à apparaître à travers différents ouvrages, différentes recherches. Maintenant, on participe d'un mouvement intellectuel au même titre que l'Orient, dont on sait que l'Orient aussi imprimait vraiment des influences très fortes au monde grec. Et ce monde grec, justement, c'est lui qui a su focaliser tout ça et faire de ses influences cette philosophie dont on parle.
Voilà. Alors là, c'est à l'archéologue que je m'adresse. On va avoir au téléphone dans 10 secondes quelqu'un qui aide les archéologues par sa spécialité, qui est la photographie aérienne. On a trouvé, là, les archéologues ont trouvé des lieux, quand même, de réunion, de culte, où vraisemblablement les druides avaient quelque chose à voir.
Bien sûr,
Bon, et on va parler aussi de cette fameuse rencontre des Carnutes, donc,
voilà, les assises
qui est évoquée
des Carnutes,
dans beaucoup de textes.
Dans l'œuvre de César, oui.
Voilà, et on cherche encore l'endroit où ils se réunissaient. Alors peut-être qu'un jour, justement, une photo aérienne pourra vous aider. Je ne sais pas, on va voir ça. Et on va dire bonjour tout de suite à Didier Moisset. Bonjour. bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes chef des activités aériennes à l'IGN, donc c'est l'Institut Géographique National.
Oui, je suis responsable du service des activités aériennes de l'IGN. Oui.
Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer justement quel est, de quelle sorte de d'activité aérienne il s'agit et comment vous fonctionnez, vous travaillez, finalement vous mettez à disposition des archéologues certaines photos aériennes.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a l'IGN, l'Institut Géographique National est une entreprise publique qui fonctionne pour l'État selon les missions qui lui sont confiées. Et l'une de nos missions est de photographier de façon périodique le territoire.
Ouais.
Donc chaque point du territoire est photographié par nos avions tous les 5 ans.
C'est ça.
Et c'est
comme ça, on voit s'il y a des piscines qui sont construites et qui sont pas déclarées. Mais
oui,
c'est un autre sujet. C'est un autre sujet.
Mais surtout, on peut surveiller les zones à enjeu. On peut,
bien sûr,
on
risque,
peut
oui.
aménager le territoire. On peut surveiller la qualité sanitaire de nos végétations, de nos forêts. Hein.
Absolument.
Il y a des tas d'utilisations qui sont possibles de la photographie aérienne.
Ouais.
Et en particulier, donc pour les archéologues, ces photos sont relativement intéressante dans la mesure où à partir de l'avion, on a une vision globale du terrain, une vision globale du sol, et ce sol nous fait apparaître des traces fossiles. Alors, bon, là encore, il n'y a pas grand-chose de magique derrière.
Ouais,
la photo, ça paraît toujours un petit peu magique. Mais...
Oui, moi, je ne vous interroge pas sur le côté magique, mais sur le côté pratique, parce que on voit vraiment quelque chose où il faut être un grand spécialiste pour analyser ces photos.
Non, il n'y a pas besoin d'être spécialiste.
C'est clair, ça saute aux yeux.
Ça saute aux yeux. Bon, les spécialistes voient des choses que le commun des mortels ne verra pas, mais il y a un phénomène très simple à comprendre, qui est la répartition de l'humidité dans le sol, qui fait apparaître des traces quand on regarde le sol depuis un avion, et en particulier quand on regarde un sol qui a souffert, par exemple, par la sécheresse, hein, c'est des choses qui sont d'actualité aujourd'hui, on voit apparaître sur un sol qui a souffert des traces qui sont des traces résiduelles de l'humidité qui est conservée, et ces traces sont d'autant plus marquées que l'homme en est la cause, enfin là où l'homme en est la cause,
c'est
là
ça,
où l'homme
a
perturbé le contexte.
Donc il peut y avoir sous terre finalement des ruines ou des murs
qui perturbent la répartition de l'humidité du sol.
D'accord.
Alors ça apparaît par des végétations qui vont pousser, mais c'est pas seulement, par des traces d'humidité qui vont rester quand le sol est très sec, il va rester par endroits des zones où l'humidité s'est concentrée.
À quelle altitude volent les avions qui font ce type de photos, Didier Moisset ?
Alors nous avons la mission de vocation qui nous amène à voler à entre 4000 et 4500 mètres d'altitude. Hein. Bien sûr, la hauteur de vol dépend de la définition de l'image qu'on veut avoir et de la focale de l'objectif qu'on prend. Hein. Alors pour des travaux particuliers, on a une définition de l'ordre de 50-60 cm quand on vole à 4500 mètres avec les outils qu'on utilise.
On peut voir des détails de 50 à 60 cm
exactement,
au sol, d'accord.
Oui. Et on peut voir, vous parliez de traces et d'alignements, on peut voir des alignements beaucoup plus fins. Puisque sur ces images, on arrive à voir les fils électriques et des lignes à haute tension. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la taille du détail, mais son organisation dans l'image qui nous permet de trouver, de voir des choses. Hein.
Bah, écoutez, c'est génial. Alors donc, de temps en temps, comme ça, une des missions de l'IGN, on dit, tiens, ben, aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois-ci, on va photographier telle ou telle zone du territoire.
Pas du tout, c'est une mission d'État et donc il y a un programme qui est établi et c'est du service public.
Ah, d'accord.
Donc de façon équitable, tous les départements sont photographiés. et tous les 5 ans, les avions d'IGN survolent les départements français.
D'accord. Donc il doit y avoir beaucoup de demandes derrière.
Alors il y a beaucoup de demandes.
Ça le poussait du côté des archéologues, oui.
Toutes ces images sont consultables gratuitement, je le répète, sur le conseil de l'administration de l'État.
Oui.
Géoportail.fr.
Alors, géoportail en un seul mot, .fr. Bah, écoutez, on va mettre cette adresse, je vous remercie beaucoup. On va mettre cette adresse donc sur le site internet europe1.fr si ceux qui nous écoutent n'ont pas eu le temps de noter au vol. Vous voulez dire quelque chose à Didier Moisset peut-être, Jean-Louis?
Bah, je voulais simplement lui dire qu'effectivement, je connaissais très très bien les photos de l'IGN que j'ai souvent consultées. Pour nous, c'est l'avantage par rapport aux photographes aériens avec lesquels on travaille, qui là travaillent dans des petits appareils et quelquefois à 100 mètres seulement au-dessus.
D'autres types de missions.
C'est une mission purement archéologique. Les clichés de l'IGN ont justement l'intérêt comme ils sont pris à très haute altitude, de pouvoir faire apparaître des très grands ensembles, comme celui dont on parle.
Je vous vois venir.
Voilà, notamment ces assises des Carnutes, qu'on ne risque pas de trouver dans les méthodes habituelles de photographie aérienne, parce que les avions volent trop bas.
D'accord.
Et ils ne peuvent pas avoir de grandes structures.
En tout cas, je vous remercie infiniment, Didier.
Je vais vous donner un petit secret,
oui,
si vous le permettez.
Oh, mais et comment ?
L'utilisation qu'on fait de la photographie aérienne, je disais que chaque point du territoire apparaît sur une photo. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il apparaît sur plusieurs photos. Et nous pouvons utiliser la photo grâce à une technique qui s'appelle la photogrammétrie pour voir la troisième dimension. C'est-à-dire qu'on peut, regarder les images de l'Institut géographique national et voir la 3D dessous.
Ah,
et on peut aussi, puisque les appareils sont des appareils métriques sont calibrés, on peut faire des mesures sur les photos et déduire de l'examen qu'on fait des photographies des mesures comme si nous étions sur le terrain pour les...
C'est génial. Merci du petit secret. De toute façon,
je vous en prie.
Je pense qu'on était entendu, mais enfin bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Didier Moisset. Bonne journée.
Je vous en prie, enfin.
Au revoir. Et n'oubliez pas, donc, geoportail.fr, c'est l'adresse qu'il vient de nous donner. Alors, on parle de cette histoire des Carnutes, s'il vous plaît, parce que ça va dans le sens, justement, des grandes cérémonies magiques qu'on imagine.
Voilà. Donc, effectivement, c'est un texte important de César et qui est en quelque sorte la base fondamentale qui a permis à des associations au XVIIIe siècle, notamment en Angleterre, d'imaginer qu'il y avait dans l'Antiquité des druides qui se rassemblaient provenant de grands territoires et qu'il fallait en quelque sorte faire ressusciter ces grandes assemblées de druides un petit peu internationales. Et donc ces gens-là se sont basés sur ce texte. Et donc ils ont imaginé que ces assemblées, notamment celle qui est décrite là pour les Carnutes, la forêt des Carnutes, étaient des assemblées rituelles
avec
tout un décorum un petit peu particulier. Or, quand on lit le texte en question et qu'on sait comment fonctionnent les druides, il ne s'agit pas du tout de ça. Ces assemblées sont des assemblées politiques et judiciaires. Et elles sont très très intéressantes dans la mesure où effectivement... elles ont cet aspect un petit peu international, c'est-à-dire que ce sont des druides qui viennent de différents peuples et qui se rassemblent chez l'un des leurs, et c'est pas n'importe lequel, c'est les Carnutes, donc dans le centre de la France.
Près d'Orléans,
près
dans la région d'Orléans,
on va dire. Qui était considéré, d'ailleurs César l'indique, comme le centre de la Gaule. Et là, les druides avaient pour mission d'examiner tous les différents... mais certainement les différents publics entre les nations elles-mêmes, qui avaient des problèmes certainement de territoire, de péage, de route, de voies navigables, de choses comme ça. Et les druides avaient pour mission de régler ces différends.
D'accord. Mais donc
c'est une activité judiciaire, probablement aussi politique et probablement aussi philosophique, c'est-à-dire que c'était certainement le lieu où ces druides s'accordaient sur un certain nombre de points théoriques.
D'accord. Alors, il y avait des petites réunions de temps en temps sur peu de peuples, ça, on en a retrouvé les traces, les archéologues en ont trouvé des traces.
Voilà, il y a eu une découverte assez récente qui a été faite en Haute-Normandie, dans un village qui s'appelle Fec. Et là, on a trouvé une très grande enceinte qui serait d'ailleurs totalement visible sur les photos de l'IGN. C'est très grand, ça fait d'une douzaine d'hectares. Et c'est un lieu de réunion qui est marqué par un fossé, parce que les Gaulois sont des gens qui font des fossés, des enclos partout. Et c'est très bien pour nous, c'est très bien pour la photographie aérienne, parce que ça permet de repérer
les
habitats,
les
nécropoles, mais aussi ces lieux de réunion. Et là, donc, on a un vaste lieu de réunion, puisque quand même 12 hectares, c'est énorme. Et on sait qu'il y avait une sorte de petit temple au centre, parce qu'effectivement, il fallait la caution divine pour ces réunions. Et on a des traces de repas, donc ces gens ont beaucoup mangé, et surtout, ils ont pratiqué la justice, et on en a pour preuve un certain nombre de gibets qui ont été trouvés tout autour de l'enceinte, donc à l'extérieur, et ça c'est tout à fait important parce qu'on voit bien la symbolique, sont des gens qui ont été rejetés à l'extérieur de l'enceinte communautaire.
Donc,
et ils ont
condamnés
été
par la communauté.
Condamnés par la communauté. Et donc, en quelque sorte, crucifié ou pendu sur ces gibets. D'accord. Et on a retrouvé les traces des pieds. Des pieds des gens qui étaient restés dans des petites fosses qui se trouvaient au pied des gibets. Donc là, on recoupe tout à fait ce que nous disent les textes antiques.
Alors évidemment, par contre, tous les archéologues s'attendent un jour à ce que, peut-être par photo aérienne, dans la région d'Orléans, on trouve ce qu'on ne cherchait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus vaste que 12 hectares.
C'est
vous imaginez que c'est presque 50 hectares.
50, oui, dans ces zones. Voilà.
Et beaucoup de gens qui venaient.
Voilà. Et là, effectivement, les petits avions, nous, on vole assez régulièrement avec des Cessna, etc. Ouais. On vole à 100 mètres, 200 mètres. Ouais. C'est pas suffisant pour voir ces grands ensembles. D'accord. C'est parce que, surtout, les archéologues aériens, si on peut les appeler comme ça, sont pas habitués à ce genre de grandes structures.
Est-ce que les satellites, je pense à ça en vous écoutant parler, pourraient vous aider de ce côté-là, ou là, carrément, c'est trop...
Non. Il y a des images satellites, mais qui, encore une fois, montrent des très grandes structures, mais c'est tout à fait possible.
D'accord. Alors, donc ça, c'est une partie de l'enquête qui se poursuit.
C'est une partie de l'enquête.
Ça reste en point de suspension. C'est le côté à suivre. Hein,
voilà,
ça,
tout à fait.
Avant de parler de l'exposition de Lyon, encore quelques instants, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vous les donne dans le désordre, d'accord ?
Oui.
Les serpes d'or. Alors, légende ou réalité, est-ce qu'on a trouvé un jour une serpe d'or ?
Non, pour l'instant, il n'a jamais été trouvé de serpe d'or. Mais bon, on peut penser que c'est une... Enfin, c'était une serpe qui était dorée. Mais l'or ne permet pas de couper une branche de gui. De toute façon, c'est un métal trop ductile pour qu'elle puisse se couper. C'était certainement une serpe en bronze ou en fer qui était dorée avec une garniture en or.
Mais certains textes en parlent.
Ah oui, tout à fait. Très, très bien.
Quelle était l'apparence des druides ? Alors, parce que là, on revient au côté panoramique.
Voilà, on le sait un peu. Donc, effectivement, ce sont des gens qui étaient vêtus de toges blanches, comme les Grecs, comme les philosophes. La blancheur avait pour but de montrer justement leur caractère pur. Donc, leur absence de souillure, etc. C'est des gens qui se réclamaient un petit peu comme les pythagoriciens, comme des gens purs, donc qui justement ne pouvaient pas approcher de trop près les sacrifices, parce que les sacrifices souillent la personne.
Ouais. Alors, en même temps, je vous pose la question, parce qu'elle est très importante, mais vous y répondez de façon, j'allais dire, assez courte, s'il vous plaît, et on reverra tout le monde à votre livre, parce que par contre, vous y consacrez des pages et des pages.
Oui.
C'est Denis qui nous a appelé en disant, mais je reviens sur la distinction entre Celtes et Gaulois, parce que les gens disent, mais alors c'est quoi Celtes, c'est quoi Gaulois?
Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de la distinction antique entre Celtes et Gaulois. Mm-hmm. Et puis, il y a une distinction qui s'est fait progressivement dans notre sens commun actuel.
Ouais.
Et disons que le mot Celte veut tout dire et rien dire. Donc, c'est pourquoi, personnellement, je le trouve très, très dangereux, dans la mesure où des gens, maintenant, de n'importe où, se réclament comme des Celtes ou comme les descendants de Celtes.
Et en cela, pas une espèce de conservatoire
Et en cela, ils se réclament aussi d'une certaine conception de la pureté aryenne, indo-européenne, etc. Et je trouve que ce mot de celte, de celtique, est assez dangereux. Ouais. Et je pense qu'il vaut mieux revenir à la réalité historique qui nous parle de Gaulois, que eux, on connaît bien, et ne pas trop utiliser le terme de celte.
D'accord.
Les Gaulois, on les connaît. Les Celtes, c'est quelque chose qui reste encore très, très difficile à appréhender.
Parce que Denis, lui, dit, mais sur cette distinction, il semble que la langue gauloise était parlée dans toute la Gaule. Or, cette langue gauloise, elle est classée parmi les langues celtiques, au même titre que le breton, le gallois et le gaélique. Nous y voilà.
Oui, là on aurait beaucoup
l'Irlande,
à dire.
Etc. Alors vous en parlez. Et il dit, la langue n'est-elle pas un des fondements d'une civilisation homogène ? Alors ça, en fait, vous en parlez beaucoup dans votre livre.
Oui.
Mais ça serait trop long.
Non, et puis il y a une petite erreur. Il n'y a pas une langue gauloise. Il y a des langues gauloises en Gaule qui sont des dialectes.
Ça vous fait rire, mais. Vous voyez que les druides, c'est quand même d'actualité. Enfin, ça passionne. On vient de nous donner, là, Bénédicte, un énorme paquet de fiches que je ne peux pas lire à l'heure qu'il est. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que nous avons en ligne ? Oui. Alors, on va parler quelques instants avec Jacques Lasfargue.
Lasfargue,
merci de rectifier. Bonjour, Jacques Lasfargue.
Bonjour. Bonjour, Jacques.
Oui, et vous êtes donc le conservateur du musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, où il y a une exposition en ce moment qui est ouverte au public qui s'intitule Partout Tatis, la religion des Gaulois.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Parce que je sais que cette exposition se poursuit jusqu'au mois de janvier, je crois.
Elle se poursuit jusqu'au 7 janvier. Mm-hmm. Vous auriez pu poser des questions à Jean-Louis Bruno, qui est un des commissaires avec Christian Goudineau et toute une série de spécialistes de cette exposition et qui a tenu une part importante.
Oui, bah absolument. Mais donc, on avait envie de vous entendre, vous, pour sortir en quelques instants, parce qu'on nous a dit que vous aviez le sens de la synthèse. En quelques instants, non, mais qu'est-ce que dire au public sur ce qu'ils vont voir, comprendre, approcher grâce à cette exposition ? Qu'est-ce qu'on y voit ?
Cette exposition Elle illustre les progrès de la recherche depuis une trentaine d'années. Elle commence par un tableau du 19e avec un magnifique druide en train de faire de l'acrobranche et de cueillir du gui. Et pour commencer par, on aurait pu l'intituler aussi « Tout ce que vous avez cru savoir sur les Gaulois et sur les druides », etc.
D'accord.
Donc on part des idées reçues.
Ouais.
Et ensuite, l'exposition, en 4 chapitres, essaye de montrer de façon un peu spectaculaire, puisqu'il y a des reconstitutions grandeur nature, on va y revenir,
ouais,
qu'il s'agit d'une religion savante fondée sur une théogonie, sur une observation de la voûte céleste.
Ouais.
Et ensuite, on va traverser tous ces grands sanctuaires que vient d'évoquer Jean-Louis Bruneau, les sanctuaires du Nord et les sanctuaires du Midi.
Ouais.
Alors, le premier chapitre, c'est ce système céleste qui est le fondement de cette religion. Et au fond, on fait comme dans Astérix, le visiteur commence à sauter dans le chaudron. Alors, le chaudron en question est une reproduction d'un grand chaudron en métal,
ouais,
qui a été découvert au Danemark et dont on vient de relire complètement l'interprétation, dont on a refait l'interprétation des panneaux décorés. On a ainsi découvert, pour prendre un seul exemple, que l'ombilic central décoré de ce chaudron,
ouais,
représente une configuration particulière du ciel avec des constellations d'Orient, l'ours, le taureau,
d'accord,
le dragon,
ouais,
etc. etc.
Ouais.
Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'aujourd'hui, on connaît tellement bien l'évolution du ciel qu'avec un ordinateur, des chercheurs ont démontré que cette configuration astrale, elle a bien existé entre 2300 et 2100 avant Jésus-Christ.
D'accord, ce qui nous renvoie à des gens qui étaient quand même beaucoup plus que des barbares ignares.
Tout à fait, mais enfin, on pourrait revenir aussi sur la notion de barbare.
Ouais, ouais, ouais.
Les Grecs et les Romains ont qualifié les Gaulois de barbares,
ouais,
entre autres parce que les Gaulois ont conquis Rome et ont conquis Delphes. Il y a un règlement de compte historique là derrière.
Ouais, ouais, d'accord.
Bien, mais, cette configuration astrale permet d'identifier un certain nombre de choses. Nous savons que c'est une religion savante et très construite. Et au fond, ça renvoie à pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, d'ailleurs.
Ouais, absolument, ouais.
Le deuxième chapitre, c'est le panthéon gaulois.
Ouais.
Il n'y a pas grand-chose de nouveau, simplement, on évoque Teutates, Taranis, Belésima, Kernunos,
ouais,
Epona,
ouais,
etc.
Ouais.
Et ensuite, nous allons entrer dans les sanctuaires, parce qu'une des grandes découvertes de Jean-Louis Bruneau et de Garcia et de Poux et de Lambeau, etc.,
mm-hmm,
c'est qu'il y avait, comme le rappelait Jean-Louis Bruneau tout à l'heure, des grands sanctuaires enclos de palissades ou de murs ou de fossés,
ouais,
avec des portes d'accès, avec des autels qui étaient recouverts par des constructions, etc., etc. C'est le cas pour les deux premiers que nous présentons,
ouais,
qui sont Gournay-sur-Aronde et surtout Ribemont-sur-Ancre,
oui,
où il y a là des reconstitutions très spectaculaires de ces constructions auxquelles étaient accrochées des armes, des trophées conquis sur l'ennemi vaincu, mais également aussi, dans un certain nombre de cas, le corps des ennemis.
Ouais.
Et ensuite, tout ceci va pourrir, il faut employer ce mot, se décomposer, tomber au pied des remparts, ça va donner des fossés dans lesquels, par exemple, Jean-Louis Bruneau a trouvé des séries impressionnantes d'umbos de boucliers, d'épées, de mobilier métallique, etc.
Ouais.
Il y a une autre variété de ces enclos qu'il évoquait tout à l'heure, qui sont des enclos à banquets.
Ouais.
Les endroits où les grands chefs de ces nations, de ces peuples, de ces tribus, appelons-les comme on veut,
ouais,
invitaient, réunissaient la population pour consommer de la viande et pour consommer du vin. Et ils ont consommé des quantités extraordinaires
de
vin.
Voilà. Et on en est sûr, parce qu'on a trouvé, on sait que, effectivement, ce n'est pas une légende, là. C'est parce qu'on revient encore une fois à Astérix avec le banquet final et le sanglier qu'on apporte. D'ailleurs, c'est peut-être pas du sanglier qu'il mangeait, d'ailleurs.
On mangeait pas du sanglier, pas uniquement du sanglier. On trouve dans ces enclos, par exemple, dans certaines régions, essentiellement du mouton.
Ouais,
à Lyon, d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, on a découvert un fossé qui est sans doute un avatar tardif de ces manifestations autour du début du 1er siècle avant notre ère, avant la conquête,
ouais,
de la Gaule. Et là, on a trouvé des jambons. On a trouvé des os de jambons,
ouais,
d'ailleurs systématiquement prélevés,
ouais,
si on peut dire, sur des porcs de 3 ans. hein, ouais. Et on trouve uniquement le train arrière. Tout le reste, on ne sait pas ce que c'est devenu.
C'est génial.
Sur ces banquets, on a tranché le lard, si on peut dire. On a mangé le jambon. Ouais.
Bon, ben dites-moi, elle est formidable, votre exposition. Il faut absolument que ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y passer y aillent. Vous dites que c'est ouvert jusqu'au 7 janvier. Hein.
C'est ouvert jusqu'au 7 janvier. C'est une exposition qui est très spectaculaire, puisque les commissaires ont choisi le parti de faire des reconstitutions, grandeur nature pour un certain nombre. On franchit le porche d'entrée de d'Assiromance, par exemple. Hein. On termine l'exposition par un film assez marrant, naturellement une invention, un texte, une création de Christian Goudineau, qui est un dialogue entre Cicéron et son frère.
Oui.
Et Cicéron interroge son frère, dit « Toi qui es allé en Gaule, est-ce que tu as vu ça et ça et ça ?»
Ah, c'est génial.
Et ils sont très très... Les deux acteurs sont excellents. Il y en a un des deux d'ailleurs qui ressemble à Christian Goudineau, mais il faut le dire.
C'est pas lui.
En plus, alors je le signale parce qu'il fait encore un peu chaud, c'est une exposition qui est climatisée à 21 degrés.
C'est
magnifique, on peut avoir frais.
On va en rester là. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné vraiment envie là. Hein. Vous nous donnez vraiment envie, Jacques Lasfargue, d'aller vous voir. Merci beaucoup de tout ce que vous avez dit. Puis on voit que, en fait, derrière les idées reçues, il y a un univers absolument passionnant. Hein.
Oui.
Il n'y a pas besoin d'imaginer.
Je crois que là, c'est une grande découverte d'un aspect d'une civilisation qui nous concerne directement.
Ben, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Donc n'oubliez pas, hein, jusqu'au 7 janvier. Je vous remercie beaucoup, Jean-Louis Bruno. Hein,
on termine
sur l'exposition. Finalement, c'est le bout de votre travail, c'est l'aboutissement.
En quelque sorte, oui,
hein,
en quelque sorte.
Le public voit.
Ça serait intéressant qu'il le voit. Oui, c'est très spectaculaire, comme l'a dit Jacques Lasfargue.
Et puis donc, je renvoie à votre livre avec évidemment des aspects qu'on n'a pas pu creuser ici, mais qui sont très importants. Ce que vous nous dites, vraiment preuve à l'appui. Comment est né ce mythe au cours du XVIIIe siècle, puis aussi au cours du XIXe siècle.
Oui,
ensuite,
un historique, en quelque sorte, de ce mythe.
De ce mythe, et puis les réponses donc vous ont apporté cette enquête sur les druides. Alors, je rappelle le titre exact, « Les druides, des philosophes chez les barbares ». On a compris, maintenant on en est persuadé. C'est aux éditions du Seuil.
Merci.
Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis.